Alors bonsoir, mesdames et messieurs, pour ce deuxième entretien de notre émission À nos amours. Cette fois, nous allons accueillir Lakis Progidis, directeur de la revue L'Atelier du roman. Alors, pour commencer, quelques mots sur Lakis Progidis, qui est né en Grèce, qui a fait des études d'ingénieur, tout comme son épouse Doris. Il était ingénieur en travaux publics. Et puis qui décide en 1980, avec l'accord de Doris, de quitter la Grèce, de quitter un travail rémunérateur et de se rendre à Paris pour étudier la littérature, alors que son épouse, elle, étudiait le cinéma. Alors c'est un choix très radical qui montre que nous sommes en compagnie d'une personne passionnée. Et aussi qui ose investir complètement, s'investir corps et âme dans ses passions. Sa passion, c'est bien entendu le roman principalement, et c'est de ça qu'il sera question avec lui aujourd'hui. Notre émission porte, je le rappelle, sur la valeur esthétique. Alors, je vais poser quelques questions à Lakis Progidis sur sa conception du roman, sur bien entendu l'entreprise même de la revue qu'il a fondée en 1993, l'Atelier du roman, revue qui est encore existante et qui en est à son 47e numéro. Nous allons donc nous entretenir avec lui autour de cette question en cherchant à voir de quelle manière aujourd'hui le roman acquiert de l'importance, où est-ce qu'il en est dans son destin depuis quelques siècles maintenant, que c'est un genre qui s'est développé considérablement, et puis comment départager au sein de toute cette production romanesque le meilleur du moins bon. Alors, pour compléter le parcours biographique de Lakis Progidis. Donc, je disais que l'Atelier du roman a été fondé en 1993. Un peu auparavant, en 1989, Lakis avait publié un livre sur Gombrowicz, mais plus particulièrement sur la critique consacrée aux œuvres de Gombrowicz, et ça s'intitulait précisément Un écrivain malgré la critique. Qui est un ouvrage passablement polémique qui cherche à montrer certaines incohérences et certaines failles dans l'approche d'un auteur que Lakis Progidis juge comme un écrivain majeur. En 1997, il publie La conquête du roman, un essai important pour lui puisque c'est dans ce livre qu'il établit sa façon de lire les romans et les valeurs précisément qui prédominent dans sa lecture. En 2001, un essai sur le roman français contemporain, publié ici au Québec, chez Nota Bene, qui s'intitule De l'autre côté du brouillard. Et enfin, plus récemment, en 2005, un livre qui contient un échange épistolaire entre Lakis Progidis et l'écrivain académicien même, Michel Déon. Un livre qui s'intitule Guerre au pluriel, guerre et roman, roman au singulier. Alors, Lakis Progidis prépare aussi, depuis quelques années déjà, un livre sur Rabelais, qui reprendra sans doute certaines idées qu'il a déjà émises dans l'atelier du roman, puisqu'il a déjà publié maints articles sur cet auteur, qu'on pourrait dire un auteur fétiche. Est-ce que c'est le cas,
C'est le
Lakis?
cas, oui.
Oui. Alors, donc pour vous, le début du roman, ce serait Rabelais, justement?
Disons que c'est une période qui va de Boccace à Rabelais. C'est une période presque de 2 siècles. C'est une période où on peut dire que toute la préhistoire du roman qui nous conduit jusqu'à Cervantes, où c'est l'éclosion du roman que nous prenons aujourd'hui comme un art établi et qui peut inspirer les épigones, parce que rares sont aujourd'hui les écrivains qui s'inspirent de Boccace ou de Rabelais, quoique c'est un fond artistique inépuisable. Mais disons que le fondateur du roman est considéré à juste titre Cervantes. Mais moi, je cherche, je fouille dans cette période, disons, pré-romanesque, parce que tous les hybrides, tout ce qui conduit à l'invention artistique de Cervantes est déjà mise en place. Et soit par l'intérêt qu'on porte au plaisir individuel, au plaisir des gens, soit à l'ambiguïté du rire, que j'appelle rire romanesque, que ce n'est pas le rire satirique, que ce n'est pas un rire qui se dirige vers
C'est
des
pas
cibles.
le comique de la comédie
C'est
au
pas
théâtre non plus.
Aristophane,
Oui, c'est ça.
n'est-ce pas? C'est toute la, disons, la période qui va d'Aristophane, ou même il y a des pièces comiques avant Aristophane, jusqu'à Boccace. On peut dire que c'est une période de 15 siècles. Les Grecs et les Romains, durant cette période, ont beaucoup exploité la satire. La satire sociale, politique, ou amoureuse, n'est-ce pas? La satire de mœurs. Tout ça a existé. Mais la
Il y a les farces du
satire,
Moyen Âge aussi.
bien sûr, ça fait partie. Mais en même temps, à partir d'un certain moment, à partir du 11e, je dirais, 11e, 12e siècle, il y a une sorte d'humour nouvelle qui débute, où l'homme s'auto-ironise, ne prend pas l'autre comme cible, mais considère que tout humain a une partie risible, tout côté
D'accord,
humain a une partie risible. Et sans cette, disons, sans ce préalable, il n'y aurait pas de roman. Si les projecteurs ne s'étaient jamais tournés vers l'intérieur, si on avait toujours des cibles, si on avait toujours des situations à s'attirer, à faire la satire, ça serait toujours, toujours la grande littérature classique qui allait de Homère à Dante. Et on a quelque chose à dire, mais toujours on s'adresse aux autres, n'est-ce pas? Comme guide, comme barde, comme poète, mais c'est toujours à informer, enseigner et améliorer la société. Tandis qu'avec Boccace commence une, comment dire, l'intérêt pour ce qui est secondaire, insignifiant, un petit plaisir, raconter des histoires, par exemple. On raconte des histoires, il y a 10 copains qui partent à la campagne pour échapper à la peste.
C'est
Ça, c'est
ça.
à signaler quand même, parce que on voit tout de suite le déséquilibre qui s'installe avec Boccace, un auteur classique, grec ou romain. Ou romain serait toujours sensible aux effets de la peste pour la société. Il n'aurait pas pu penser au plaisir individuel,
Je
raconter
vois.
des histoires, n'est-ce pas? Donc là, c'est, je dirais, les débuts, mais c'est symbolique. Ça pourrait être un autre auteur, ça ne pourrait pas être Boccace, mais socialement, en Europe entière, s'instaure cet intérêt pour ce qui fait plaisir aux gens, individuellement. Chaque homme, chaque femme a un intérêt particulier.
Mais lorsque vous relevez cet aspect chez Rabelais ou chez Boccace, c'est une lecture aussi qui vous tendez à privilégier cet aspect-là, parce que dans ce qui a suivi dans l'histoire du roman, il y a eu une dimension satirique aussi qui s'est développée à l'intérieur même du roman, tout comme la critique sociale s'est développée aussi et est devenue même dominante à un moment donné au 19e siècle, où le roman était là pour précisément intervenir devant les conflits sociaux, chercher aussi à faire valoir certaines positions du côté des classes défavorisées, par exemple. Pour vous, c'est pas cette tradition-là qui est privilégiée dans votre optique. Ce serait plutôt, Rabelais vous servirait, vous serait utile pour retourner à quelque chose d'autre qui aurait été peut-être oublié en cours de
Oui,
route.
disons, vous avez raison. Disons qu'il y a une sorte de pendule esthétique. Et si mon hypothèse est valable, que au départ le roman est cette ironie dirigée dans au même titre pour les autres et pour nous-mêmes. Et on pourrait dire que le roman du 19e siècle, ou tous les romans qui interviennent d'une manière explicite pour signaler les maux et pour les cautériser, c'est une sorte d'éloignement par rapport à cette donnée initiale. Mais au fond, le cœur, je crois qu'elle est toujours saisie par ce traitement équitable de tous. Nous sommes tous exposés aux risibles, même les guides, même ceux qui enseignent le bien. Et je suppose qu'aujourd'hui, c'est toujours mon hypothèse, n'est-ce pas, qu'on a épuisé un peu ces romans didactiques ou ces romans de, où le romancier ou l'artiste s'impose comme une valeur, une autorité, etc. Et qui, disons, des faits et du côté du bien, je crois qu'il est temps de se regarder, de voir que cette place du côté du bien même est discutable et que le bien même peut être risible. C'est qu'on prétend faire du bien à un côté risible. Et c'est donc dans ce sens, Rabelais est, disons, éternel. Dans ce sens, si le roman veut se sauvegarder sa valeur dans le monde, il doit se souvenir de cette première
lettre. Pourtant, dans l'œuvre de Rabelais, j'en ai pas fait une lecture aussi attentive que la vôtre, sans doute, mais il y a tout de même des valeurs, on l'associe souvent à l'humanisme. Par exemple, tout ce projet de l'abbaye de Thélème se fonde sur des valeurs très positives. La guerre picrocholine aussi est une forme de satire aussi,
bien
dirigée
sûr.
Contre des rois, des puissants comme Charles Quint. Donc, cette dimension-là critique que le roman auquel s'est associé souvent, le roman, est présente aussi chez Rabelais. Moi, l'impression que j'en retire, c'est que Rabelais était aussi le défenseur de certaines valeurs.
Vous avez absolument raison. Et peut-être il fallait compléter tout à l'heure quand je disais, quand je prenais la défense, disons, de ce rire qui se dirige vers nous-mêmes. Et ce n'est pas le scepticisme extrême qui existe dans l'œuvre de Rabelais. Il n'y a pas d'art, d'après moi, il n'y a pas d'art qui se joue sur se résistre d'un scepticisme absolu. Peut-être la philosophie peut le faire, mais pas l'art. Quand je dis qu'il y a un rire qui n'est pas dirigé vers l'autre, ça ne signifie pas que Rabelais ne fait pas la satire de l'Église, des mœurs ou des rois de son époque qui avaient, justement, comme vous avez remarquer des projets expansionnistes. Et à juste titre, c'était Charles Quint, évidemment. Mais le roman pris dans son ensemble, il y a des échappatoires pour ne pas justement accabler à 100% et d'une manière totalitaire l'adversaire. On peut rire, mais on peut rire aussi de soi-même. C'est ça qui fait la valeur de cette découverte, disons, rabelaisienne, qui n'oublie jamais que ce qui fait la satire est aussi un sujet qui, s'il dépasse certaines limites, ça sera de même rangé parmi les risibles, parmi les attitudes à rire.
Est-ce que vous voulez dire par là que comment ça se produit? C'est en faisant aussi, en prenant comme objet de dérision les personnages qui sont perçus comme étant positifs là, dans le roman de Rabelais.
Tout à fait.
Panurge, Pantagruel, Gargantua. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas chez lui un héros totalement bon qui serait le porteur d'une vérité absolue.
Non, ça n'existait pas. Peut-être plus tard, on a fait ça. On a fait des héros à 100% positifs, n'est-ce pas? Mais tirés d'une idéologie ou d'une interprétation du monde. Et, prenons par exemple l'abbaye de Thélème, que vous venez de mentionner. L'abbaye de Thélème est donnée à frère Jean, le moine, comme récompense à sa participation dans les guerres picrocolines, parce qu'il était en faveur de Gargantua. Il a tout fait pour sauvegarder d'abord l'abbaye contre les envahisseurs, et après il a participé à la guerre défensive de Gargantua par rapport à Picrocole. Et Gargantua lui dit, j'aimerais quand même vous récompenser pour vos services, et il lui a construit l'abbaye de Thélème. Et sur le fronton de cette abbaye, on lit, faites ce que vous voulez, fais ce que tu voudras. C'est sur le fronton. Et Rabelais donne les détails architecturaux et des mœurs qui sont en vigueur dans cette abbaye, où il y a des hommes et des femmes, où en sable, où ils se nourrissent normalement, qu'il n'y a pas de jeûne imposé par aucune règle, et où les femmes et les hommes sont libres à se marier au moment voulu. Et ils passent leur temps agréablement et sans contrainte. Donc on peut dire, voilà, c'est une société rêvée. Nous sommes dans les années de
Une utopie,
Thomas
ouais.
Moore, n'est-ce pas? Nous sommes là, à la même période. C'est une utopie. Mais si on lit ce qui précède et ce qui va avec, parce que surtout ce qui va après, on trouve dans les fondements de cette abbaye une énigme. C'est avec cette énigme qui termine le deuxième livre, c'est-à-dire le livre où il y a les guerres picrocolines, avec une énigme qui n'y a pas, où il n'y a pas de solution. Et on donne deux réponses contradictoires pour interpréter l'énigme qui concerne le jeu de paume, un jeu qui est interprété symboliquement comme quelque chose de positif, c'est-à-dire vraiment dans le sens du bien, mais aussi dans le sens contraire du jeu du ludique, qui était inutile, complètement inutile. Si on oublie ce chapitre qui clôt, qui termine, avec qui le roman termine, on prendra l'abbaye de Thélème comme une utopie positive, comme une leçon que Rabelais donne à tout le monde, sans, comment dire, avoir quelques doutes sur, justement, si c'est une blague ou c'est de sérieux. Donc c'est le roman dans son ensemble qui fait que le lecteur, quand même, est plutôt éduqué à avoir des doutes sur toute chose qu'est des certitudes.
Ben c'est ça, si je suis bien votre ce que vous me dites, ça me fait beaucoup penser aux propositions de Kundera sur le roman, et je sais que Kundera a joué un grand rôle aussi dans votre
Tout à
parcours,
fait.
dans votre réflexion sur le roman. Et justement, peut-être pour enchaîner là-dessus, j'aimerais qu'on discute certaines de ces propositions et je vais me permettre de citer aussi l'art du roman de Kundera. Une formule fameuse hein, qu'on mentionne souvent. Il écrit Découvrir ce que seul un roman peut découvrir, c'est la seule raison d'être d'un roman. Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu'alors inconnue de l'existence est immoral. La connaissance est la seule morale du roman. Alors ça, c'est, je pense que j'ai pas besoin. C'est quelque chose que vous connaissez très très bien. Je pense que dans vos textes aussi, ça revient parfois. Et ce qui m'a fait associer ce que vous disiez à Kundera, c'est aussi lorsqu'il dit que le roman, l'éthique même du roman est celle de poser une interrogation, une incertitude. Et donc de placer des personnages dans une situation où ils sont mis devant une contradiction insoluble. Il préconise l'ambigu, le relatif, contre ce qu'il appelle la vérité totalitaire, celle qui s'impose de façon qui se voudrait unanime. Alors, bien sûr, ces propositions-là sont fort stimulantes. Alors, j'imagine que vous serez d'accord pour dire que
J'aimerais,
c'est un peu le filon que vous
tout à
tentez
fait,
d'exploiter.
tout à fait. Mais si vous me permettez, j'aimerais quand même faire une, comment dire, préciser la question du relatif. Quand Kundera parle du relatif, peut-être il y avait pas mal de malentendus autour de ça. Moi, je viens de dire d'ailleurs que le scepticisme absolu ne concerne pas le roman. Il n'y a pas de scepticisme absolu. Le relatif n'est pas absolu. Il n'y a pas le romancier n'est pas un Ponce Pilate qui laisse aux humains se débrouiller seuls. Ça sera vraiment une fausse interprétation si on comprenait le roman comme un ludique pour les ludiques, comme un jeu pour les jeux, pour jouer. Non, on ne joue pas.
Il y a
Et
aussi, il y a aussi
il y a, il y a une recherche,
il y
on
a,
essaye de comprendre quelque chose.
ouais, je
Et
vois.
si on essaye de comprendre quelque chose, on n'est pas dans le relatif, dans le sens où
Le
tout
relativisme
vaut et
philosophique,
qu'il n'y a
c'est
pas
ça.
qu'il n'y a pas de valeur, disons, qu'il n'y a pas de bien du bien et du mal, qu'il n'y a pas un
Oui.
conflit entre le mal et le bien.
Donc, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour dire qu'il y a quand même une tension vers la vérité dans le roman?
Tout à fait. Mais s'il n'y avait pas cette tension, si ce n'était pas les buts d'aller vers la vérité, l'art entier n'existerait pas. L'art entier en tant qu'activité humaine, ça suffirait de voir des vérités révélées, excusez-moi, révélées une fois pour toutes. Mais on voit très bien que l'humanité ne marche pas avec les vérités révélées une fois pour toutes.
C'est ça.
Donc, tout le reste, c'est du domaine de l'art. Et le roman, comme dit Kundera, et là je suis tout à fait d'accord, ajoute à cette approche de la vérité le chemin de la connaissance des aspects inconnus. Et je vous donne un exemple. Quand, par exemple, Panurge, dans le tiers livre, se demande s'il sera marié et s'il sera cocu. Et tout le livre, du troisième, quatrième chapitre jusqu'à la fin, c'est le parcours de Panurge avec ses amis de toutes les instances, soit la magie, soit les autorités ecclésiastiques, soit les autorités juridiques. Tous sont visités pour répondre à cette fausse question. Bien sûr qu'on pose une fausse question, mais est-ce que nos questions sont vraies? Est-ce que ça ne nous travaille pas de savoir si nous serons mariés et si nous serons cocus ou pas? Et là, toutes les autorités lèvent leurs mains à la fin. Et le roman termine sans réponse. Voilà encore, disons, un exemple de cette tendance vers la vérité, sans réponse, mais on a fait quand même un pas. On a compris qu'aucune autorité n'est à côté de nous pour nous aider. Et ça, c'est un pas.
Maintenant, j'aimerais qu'on se penche un peu sur un aspect aussi de la proposition de Kundera qui mérite d'être approfondi, je pense. Il met beaucoup l'accent sur la connaissance. D'ailleurs, vous avez utilisé ce mot-là. Le roman nous entraîne vers une connaissance. Ce qu'il veut aussi démontrer, c'est que la connaissance, dans le cadre du roman, n'est pas une connaissance de type scientifique, mais il y a quand même un aspect cognitif très important pour lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une forme de réduction quand même dans ce que peut apporter le roman? Est-ce que le roman, sa fonction est de... Et en est une fonction cognitive, même si c'est par d'autres moyens que la science ou la théorie. Est-ce que c'est la seule fonction du roman?
Écoutez, si on reste sur l'essence restreinte des mots, évidemment, la proposition de Kundera paraît restrictive. Mais si on essaye d'imaginer un peu que cet aspect cognitif est plutôt de l'ordre de l'esthétique, de l'affectif, de l'affectivité, de nos commerce intérieur avec les personnages, de cette comment dire, de cette marche, de cette avancée dans notre vie avec les personnages, comme s'il y avait des sortes de guides pour nos actions, pour nos réflexions. Si on pense à un moment où on tombe amoureux, mais en même temps on pense à Emma Bovary. Et si au moment de se disputer avec son bien-aimé, on pense aussi à Emma Bovary, là on augmente l'existence, on a quelque chose, c'est de l'ordre du cognitif, c'est dans ce sens. S'il n'y a pas une connaissance précise, mais il y a un accompagnement dans notre vie. C'est un éclairage de notre existence. Et cet éclairage est donné par les personnages romanesques. Pas par une leçon qu'on peut transmettre. On ne peut pas mettre cette leçon en classe. C'est chaque lecteur qui a droit à cette sorte de leçon. Là, nous devons dire une sorte de leçon. Mais c'est réalisé, c'est concrétisé par cet habitat. Nous sommes maintenant cet habitat de ces personnages. Nous les accueillons et nous vivons avec eux. C'est ça la connaissance romanesque.
Il y a quelques années, il y a eu une remise en question justement d'un des aspects essentiels du roman, qui est la représentation. Vous insistez sur la question du personnage. Le personnage, pour reprendre la formule de Kundera, est un ego expérimental. On construit une personnalité qui est à la fois soi et autre que soi-même, et on met cet individu dans des situations précises en voyant de quelle façon il réagira. Comment vous vous situez, vous, devant cette... vous n'avez pas le sentiment qu'il y a dans la représentation, justement, une forme d'aporie, c'est-à-dire qu'on est toujours devant le relatif, justement, on est toujours entraîné du côté de... Si on présente un personnage en montrant telle ou telle réaction, mais ça aurait pu être une autre réaction aussi, il y a toujours d'autres possibilités. Comment faire en sorte que d'éviter cette relativité des situations humaines? Je voudrais peut-être poser un peu plus clairement ma question. C'est peut-être cette dichotomie classique entre les situations du vécu et le cœur même des choses, l'être, ce qu'en philosophie on appelle l'être. Ce qui a été dénoncé chez le roman, c'est de s'enfoncer dans le magma informe des situations vécues sans toucher l'essence même des choses. Quelle est votre position? Je sais que la question est un peu générale, mais j'aimerais quand même qu'on essaie de l'approfondir.
En général, je crois qu'il y a un problème théorique. Permettez-moi, j'utilise rarement ce terme, mais il y a un problème théorique concernant le roman. Son fond ne se déploie pas à partir du terme représentation, mais à partir d'un autre terme, dévoilement. Et je crois que c'est une question de sensibilité, de voir qu'il y a des arts pour lesquels la représentation, c'est leur fond esthétique, que c'est impossible de faire autrement. Le roman, dès son départ, d'après moi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu théorique, dès son départ, met tout son être sur le dévoilement de ce qui est caché. Et ce dévoilement ne peut se faire que par ses réalisations, c'est-à-dire ses personnages, qui sont des réalisations, ne sont pas des figures. On ne récupère pas des figures, comme la tragédie, par exemple. Récupère Oedipe. Dans la légende, il était là, dans la légende, on récupère. Mais Don Quichotte n'était nulle part. Il y avait un Amadis, un chevalier, mais pas Don Quichotte qui a lu les histoires d'Amadis. Là, c'est une véritable création de l'imaginaire de Cervantes. Et il apparaît dans le monde, il se dévoile. C'est comme s'il déchire l'écran. Il était quelque part, quelqu'un qui a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup des histoires chevaleresques, au point de les croire. Là, c'est un exemple d'homme. Vous, moi, n'importe qui peut tomber sur l'influence de ces lectures. Et Don Quichotte nous parle comme cette situation vécue. Et il se dévoile à chacun de nous. Il ne représente rien.
Mais avez-vous l'impression, alors qu'un personnage réussi qui traverse l'histoire, comme Don Quichotte, ce serait un peu comme un archétype.
Il y a un côté archétypal, après, une fois créé, mais il y a aussi un côté de créativité infinie, parce que la situation d'homme en lecture est une situation dans le monde, c'est-à-dire les données du monde peuvent changer, et dans ce sens, l'archétype ne sera pas le même, ce sera un autre lecteur. Un autre rapport, l'archétype va influencer un autre romancier pour reprendre, disons, ce rapport, ce qui se fait avec Flaubert, parce qu'Emma Bovary aussi lit des œuvres, disons, un peu idylliques ou de best-sellers
Une
romantiques,
œuvre
bien
sentimentale.
sûr. Mais en même temps, il vit dans un autre monde. Ce n'est plus Don Quichotte. C'est quand même un être romantique. Qui rêve l'amour romantique et le roman est tout à fait différent. Bien sûr, l'archétype existe, mais c'est un archétype ouvert. On ne peut pas dire que ce n'est pas Œdipe, ce n'est pas Électre, ce n'est pas Oreste. Là, ce sont des archétypes, si vous me permettez le terme fermé, une fois pour toutes. On rejoue, on représente la tragédie, on représente le drame, on ne représente jamais le roman. Il n'y a jamais répétition.
Il y a la part du concret aussi, parce que il y a cette formule chez Kundera où il reprend Husserl dans ce projet associé au roman de retrouver le concret, l'homme concret.
L'homme concret, mais pas l'homme réel, parce que là, c'est une autre affaire. L'homme concret, c'est, disons, le réel plus notre propre expérience. Parce que personne ne peut pas, le romancier non plus, ne peut dire, voilà Don Quichotte que c'est du concret. Non, c'est moi, le lecteur, que je transforme le réel, la réalité, à travers cette expérience de Don Quichotte, je transforme ça en concret, en situation concrète. Je dis, oui, ça marche parce que je le sens. Je sais que j'ai lu et que je suis influencé, que je projette mes lectures sur ma compagne, sur mon entourage ou sur mes amis. Le concret se réalise au moment de la lecture. Ça ne préexiste pas. Donc, n'est pas jamais formulable d'une manière, disons, scientifique. Ce n'est pas, les sciences de l'homme ne peuvent jamais saisir le concret dont parle le roman.
Alors, cette connaissance-là, pour reprendre un peu le terme que l'on débat, c'est de l'ordre de l'existentiel, si je comprends bien.
À 100%, bien sûr. Là où je n'ai rien. Le mot dit tout.
Mais c'est comme si dans le roman, il y avait d'une part, on parlait de la représentation, ça entraîne chez le lecteur une forme d'identification au personnage. On a tous vécu ça, surtout à l'adolescence, on s'identifie. Et est-ce que je vous comprends bien si vous dites que les romans qui pour vous auraient une valeur, les romans qui se dégageraient de la masse, seraient ceux qui à la fois permettent cette identification et en même temps une prise de distance. On s'identifie à Emma Bovary, mais en même temps, il y a quelque chose dans le roman qui nous amène à voir quels sont, si vous voulez, qu'est-ce que peut entraîner une attitude à la Emma Bovary, et donc qui nous amène à faire une forme de, pour formuler une sorte de critique de cette attitude-là. Est-ce que je vous suis bien,
Tout à fait. Moi, je dirais que, en tout cas, le mot qui me convient plus qu'identification, que là, ce mot crée plutôt des problèmes et c'est le mot accompagne. Les personnages nous accompagnent dans la vie par des aspects que nous partageons. C'est-à-dire, si on disait que je m'identifie à Emma Bovary, il fallait ajouter à quel moment d'Emma Bovary vous vous identifiez? À la fin? Au début? Au milieu? Quelle Emma Bovary? Comment vous êtes arrivé à fixer un moment d'Emma Bovary? Non, c'est le contraire. Emma Bovary nous accompagne par des moments de sa vie, par des instances. Et c'est à la preuve de notre existence que tel ou tel aspect d'Emma Bovary paraîtra. là. Ce qu'il nous a offert, Flaubert, c'était un parcours d'un personnage de A à Z. Ça pourrait être de A à K, c'est pas là la question, mais là, Flaubert, c'est un personnage complet qui s'installe, mais par quel côté, on ne sait pas. Il s'installe en nous, et si nous sommes un peu méditatifs, le roman exige de notre part cette méditation, pas de consommation, pas consommer et mettre à côté. Là, on peut dire, on s'identifie vite avec la fin, ou avec les débuts, ou avec l'élan de Vera, de Emma vers le romantisme. Mais c'est très réductif. C'est peu de choses. C'est pas ça que Flaubert a fait. A fait un compagnon.
Mais une des grandes difficultés dans le roman, qui doit se présenter à tous les auteurs qui ont un peu conscience de ce qu'ils font, c'est justement dans le destin de leur personnage. C'est comme si, inévitablement, il y a une morale qui se dégage, hein, du parcours que l'on fait subir à un personnage. Si, par exemple, on a développé un personnage qui est vicieux, comme dans Les Liaisons dangereuses, vous savez, comme vous connaissez la fin dans Les Liaisons dangereuses, justement, de
Bien
Madame de
sûr.
Merteuil, qui est un personnage fascinant, mais à la fin, elle est punie. Et là, il y a une sorte de morale qui revient en force. Et c'est un peu ce qui fait ce que certains pourraient percevoir comme l'arbitraire du roman. Qu'est-ce qui fait que l'auteur décide de la punir? Ou qu'est-ce qu'il aurait pu décider aussi qu'elle règne en maîtresse absolue et qu'elle continue d'agir comme elle l'a toujours fait? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet aspect deus ex machina du romancier à l'égard de ses personnages et aussi de la difficulté, justement, de clore un parcours en laissant les choses ouvertes, sans nécessairement faire intervenir une morale bien pensante.
Parfois, comme vous dites, le cas de liaisons dangereuses, je vois plutôt l'impossibilité de laisser la marquise sans punition dans une société précise, dans un moment où cette société vit d'une certaine manière, n'est-ce pas? Mais je n'oublie pas ce qui précède et ce qui amène jusqu'à cette fin. C'est ça que je dis. Si c'est pour lire les romans pour les conclusions, nous perdons les 80% de l'art. Mais j'accepte toujours un verdict qui est un verdict social, qui est un verdict d'humanité, qui est un verdict que nous sommes quand même des ensembles organisés intérieurement, que l'éthique fait partie des vertus de la civilisation. Que ce n'est pas, je reviens toujours à cette impossibilité d'être sceptique à 100% et de montrer des personnages sans prendre part éthiquement. Je ne pense pas, moi je ne pense pas que c'est l'ambition du romancier de se jouer de la société et de se montrer qu'il est plus intelligent.
Non, non.
Donc, évidemment, ça me soulage que la marquise soit punie. En tant que lecteur, j'avoue. Parce que j'ai besoin de mes prochains. Je veux vite vivre en société. Mais j'ouvre mes yeux, le roman ouvre mes yeux sur cette faculté qui a maintenant cette société, pas n'importe quelle société, mais la société de la clo, de transformer l'homme et le sentiment de l'amour en un mécanisme pour contrôler. De là jusqu'au totalitarisme du XXe siècle, il n'y a pas une grande distance où on peut manipuler l'humain.
Mais ce qui est...
Est-ce qu'on ne voit pas là, dans la clo,
Oui.
déjà pointer cet avenir de l'homme qui est paru en grand jour après.
Moi, je vois. Mais ce qui est fort aussi, ça, c'est la lecture que j'en fais personnellement, mais dans Les Liaisons dangereuses, c'est que même si la marquise est punie, il reste que la société autour d'elle n'en sort pas indemne. Le roman ne donne pas raison non plus à la société.
Non.
Et c'est même dans le discours de la Merteuil, il y a plusieurs aspects dans les lettres qu'elle écrit montrant à quel point, au fond, elle répond d'une éthique beaucoup plus rigoureuse que celle des gens qui l'entourent, qui pratiquent la vertu. Enfin, c'est,
tout à fait. Je voulais ajouter ça fait partie du corps. Ça fait partie du corps. Donc, n'oublions pas le corps pour la conclusion.